SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Les peuples Kamaraygal de la nation Guringai ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit de Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Radio SBS. Il est 13h à Sydney, Melbourne et Canberra. C'est l'heure de votre programme en français. Léo Roussel, aujourd'hui pour vous accompagner pendant cette nouvelle heure d'émission. Au menu de ce jeudi 13 juin, nous ferons un point sur l'actualité dans le monde, en Australie et en France, bien évidemment, après l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale. Puis vous retrouverez le journal des sports avec Jean-Noël Ducasse. Qui dit émission du jeudi dit également journal de l'économie avec Nicolas Perpich. Puis vous découvrirez en deuxième partie de programme une interview en lien avec l'actualité du moment en France. Nous reviendrons sur la dernière dissolution de l'Assemblée nationale par un président en France en 1997. Raphaël Baquet, grand reporter au journal Le Monde, reviendra sur ce ratage politique de Jacques Chirac. Mais comme d'habitude, on commence par votre journal. À la une de l'actualité de ce jeudi 13 juin, le président français Emmanuel Macron a défendu mercredi son choix de dissoudre l'Assemblée nationale et de convoquer de nouvelles élections législatives. Lors d'une conférence de presse, il a appelé à un large rassemblement autour de la majorité pour contrer les extrêmes. À gauche comme à droite, la bataille des alliances est lancée. L'espoir d'un cessez-le-feu à Gaza reste fragile ce jeudi. Les États-Unis estiment que certaines revendications du Hamas suite à la proposition de cessez-le-feu de Washington, acceptée par Israël, ne sont pas réalisables. Et puis en Australie, le gouvernement fédéral continue de serrer la vis en matière d'immigration. De nouvelles mesures doivent entrer en vigueur le 1er juillet pour empêcher les personnes déjà présentes sur son sol en visa touriste d'effectuer un visa étudiant pour rester en Australie. La conférence de presse d'Emmanuel Macron était très attendue mercredi matin, 3 jours après l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale. Le président de la République a tenu à justifier sa décision prise au soir de la débâcle du parti de la majorité aux élections européennes. Il a assuré ne pas pouvoir rester indifférent au message des Français et a appelé au rassemblement de tous ceux qui défendent sans ambiguïté les valeurs de la République pour faire face aux extrêmes lors des législatives. Un discours assurément aux allures de campagne pour le scrutin du 30 juin.
À l'extrême droite, on nous explique qu'il faut choisir entre l'écologie et l'économie. C'est un renoncement au projet écologique. C'est ça l'extrême droite et la droite qui s'allie à elle. À l'extrême droite, il n'y a pas de projet de renforcement économique parce qu'il y a l'abandon de tout ce qui fonde l'attractivité du pays, la capacité à garder des investisseurs. Quant à l'extrême gauche, par sa politique de taxation totalement déraisonnable, par sa politique de sortie du nucléaire, encore défendue par une majorité de ceux qui aujourd'hui constituent cette alliance, elle est tout à la fois l'impossibilité de suivre un chemin écologique crédible et l'affaiblissement, là aussi, du pays.
Et à droite comme à gauche, les partis politiques tentent de nouer des alliances pour tenter de s'assurer la majorité lors des élections législatives. Dans un élan pour faire face à l'extrême droite, les partis de gauche réunis sous la bannière du nouveau Front populaire ont trouvé un accord de principe au sujet de la répartition des 577 circonscriptions pour le scrutin. La France insoumise en obtient le plus devant le Parti socialiste, les écologistes et le Parti communiste. À droite, la journée a été marquée hier par l'exclusion du président des Républicains, Éric Ciotti, par le bureau politique de son parti. Le député des Alpes-Maritimes avait appelé à faire alliance avec le Rassemblement national pour les législatives. Une décision qui a scandalisé au sein du parti de nombreux membres appelant à sa démission. Malgré la décision du bureau du parti, Éric Ciotti conteste et s'estime victime d'un putsch. On l'écoute.
Je suis président des Républicains et je le reste. Les militants m'ont élu et seuls les militants pourraient me refuser cette légitimité.
Est-ce que vous êtes victime d'un putsch là ?
Juridiquement, oui, en tout cas.
Et autre exclusion ce mercredi à l'extrême droite, le président du parti d'extrême droite Reconquête, Éric Zemmour, a annoncé l'exclusion de Marion Maréchal du parti. La nièce de Marine Le Pen, tête de liste de Reconquête pour les élections européennes, avait appelé à voter pour les candidats du Rassemblement national lors des élections législatives anticipées. La réforme constitutionnelle sur le dégel du corps électoral en Nouvelle-Calédonie a été suspendue hier par le président français Emmanuel Macron. Une conséquence directe du contexte politique en France après la dissolution de l'Assemblée nationale. Le chef de l'État a estimé ne pas pouvoir laisser place à l'ambiguïté dans la période. Le projet de loi auquel s'opposent les indépendantistes entendait élargir la liste des électeurs aux scrutins provinciaux de Nouvelle-Calédonie. Son annonce a provoqué des violences sans précédent depuis les années 1980 sur le territoire. 9 personnes sont décédées depuis le 13 mai. Les modifications souhaitées par le Hamas dans la proposition américaine de cesser le feu à Gaza ne sont pas réalisables, estime Washington. Mercredi, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a déclaré que certaines modifications proposées par le mouvement islamiste palestinien ne pouvaient être respectées. L'accord présenté par le président américain Joe Biden pose les conditions d'un cessez-le-feu total et complet, de la libération des otages détenus par le Hamas, de la restitution des dépouilles des otages décédés et de l'échange de prisonniers palestiniens. Anthony Blinken s'est exprimé au sujet de cette réponse du Hamas à l'issue d'une rencontre avec le Premier ministre du Qatar à Doha. Il estime que les conditions d'un cessez-le-feu sont réunies dans la proposition.
Look, Israel accepted the proposal as it was and as it is. Hamas didn't. So I think it's pretty clear what needs to happen. And we're determined in the coming days to again try to work this. We will work this with urgency and see if the gaps that are workable, we can actually work and bring it to conclusion.
Le président des États-Unis, Joe Biden, se rend lui en Italie ce jeudi à l'occasion de l'ouverture du G7, dont les dirigeants ont annoncé mercredi avoir trouvé un accord sur le décaissement de 50 milliards de dollars pour l'Ukraine via l'utilisation d'actifs russes gelés. Le président américain doit lui également signer un nouvel accord de sécurité avec l'Ukraine lors de ce sommet du G7. Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Jake Sullivan, affirme que cet accord va assurer le soutien des États-Unis sur le long terme à l'Ukraine en matière de défense et de sécurité.
Our goal here is straightforward. We want to demonstrate that the US supports the people of Ukraine, that we stand with them and that we'll continue to help address their security needs. Not just tomorrow, but out into the future. We outline a clear vision of work with our allies and partners, with Ukraine, in order to continue to strengthen Ukraine's credible defense and deterrence capability. Any lasting peace in Ukraine has to be underwritten by Ukraine's own ability to defend itself.
En Australie, il n'a jamais été aussi difficile de vivre pour les bénéficiaires d'allocations sociales, estime un rapport sur le coût de la vie publié par Anglicare. Le document révèle que les prix de la nourriture, du transport et du logement pèsent sur les Australiens à faible revenu. Anglicare estime qu'une personne qui bénéficie de l'allocation pour les demandeurs d'emploi, job seeker, et qui vit en colocation ne dispose que de 127 dollars par semaine après avoir payé nourriture, transport et logement, tandis qu'un ménage monoparental bénéficiant de l'allocation parentale d'éducation ne dispose lui que de $24 par semaine. Casey Chambers, directrice d'Anglicare, estime que le montant des aides sociales devrait être calqué sur l'évolution du coût de la vie.
Job seeker now is half the rate of the poverty line. We can see that those people, they're not able to look for jobs. This is actually a barrier to them for looking for jobs. They're not able to contribute to their kids' school community, to their own community. They're worried every day about how they're going to balance getting food onto the table. So we've got to increase these benefits. We know that that costs money, but there's lots of other things that cost money too. We'd also say that the cost of not doing it is in some ways greater.
Et en Australie toujours, le gouvernement fédéral veut rendre plus difficile pour les citoyens étrangers ce qu'il appelle le visa hopping. Des mesures supplémentaires entreront en vigueur à partir du 1er juillet pour renforcer la réglementation concernant les personnes qui viennent étudier en Australie notamment. Les détenteurs de visas touristes et pour diplômés ne pourront plus faire de demande de visa étudiant depuis le territoire australien. La ministre de l'Intérieur Claire O'Neill affirme que ce changement vise à réduire le nombre de personnes susceptibles de devenir résidents temporaires de façon permanente en Australie. Et un point sur la météo avant de refermer ce journal. Des nuages ce jeudi sur la côte sud-est de l'Australie. Les températures ne dépasseront pas les 11 degrés à Canberra, 17 à Sydney et 13 à Melbourne. Il fera plus chaud en revanche dans le Queensland avec 21 degrés attendus à Brisbane. Une journée ensoleillée également du côté de Cairns avec un thermomètre qui grimpera jusqu'à 28 degrés. Il fait 32 degrés à Darwin. Du soleil aussi en Australie occidentale avec 20 degrés attendus à Perth. Il va pleuvoir en revanche à Adélaïde en Australie méridionale où il devrait faire 16 degrés maximum. De la fraîcheur enfin pour Hobart en Tasmanie sous la grisaille où il fera 16 degrés ce jeudi. Il est 13h14, vous écoutez le programme en français sur Radio SBS. Tout de suite, c'est l'heure du journal des sports avec Jean-Noël Ducasse.
Journal des sports de ce jeudi 13 juin. Et d'abord la natation. Ariane Titmus, l'Australienne, a battu le record du monde du 200 mètres nage libre devant son public à Brisbane hier. La jeune femme de 23 ans a réalisé un temps d'une minute et 52 secondes 23 centièmes, soit 0,62 secondes de moins que le précédent record établi au championnat du monde de l'année dernière par Molly O'Callaghan, l'Australienne. O'Callaghan était également dans la même course hier et elle a battu le temps qu'elle avait établi l'année dernière de 0,37 secondes, soit le deuxième temps le plus rapide de l'histoire. Ariane Titmus détient désormais les records du monde du 200 mètres et du 400 mètres nage libre et elle est la championne olympique en titre dans les deux épreuves. S'exprimant sur Channel 9, elle a déclaré qu'elle était ravie.
Looking at the results, that's unbelievable. So I'm just really happy to finally produce a swim in the 200 that I feel like my training reflects. But I think just the field that we have is why we're swimming so fast. We push each other every day. To have five girls under Dean in that final is unbelievable. And it's a credit to him and the program.
On passe au foot avec un mot sur les préparations de l'Euro de 2024. La France est déjà à son camp de base en Allemagne. Eric Mamruth pour RFI.
C'est à Bad Leipzig, à l'est de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, que les Bleus vont séjourner durant ce championnat d'Europe allemand dans un hôtel discret et calme situé dans cette banlieue de la ville de Paderborn, où ils vont effectuer cet après-midi leur premier entraînement. Le premier match des vice-champions du monde tricolore étant prévu lundi face à l'Autriche à Düsseldorf. Nous abordons cet Euro avec beaucoup d'appétit mais aussi beaucoup d'humilité. C'est ce qu'a déclaré le capitaine des Bleus Kylian Mbappé dans une longue interview accordée à l'hebdomadaire allemand Sport Bild. Son objectif personnel étant, je cite, de marquer 7 euros de mon empreinte.
Alors pour rappel, la France va essayer de remporter un troisième titre, ayant déjà triomphé dans cette compétition en 1984 à domicile et en 2000 en Belgique et aux Pays-Bas. Retour maintenant sur la quatrième journée pour les qualifications de la Coupe du Monde de 2026 en zone Afrique. Il y avait 13 matchs avant-hier. Sylvie Berruet et Sofiane Amazian pour RFI.
Parmi les résultats marquants, la victoire ô combien importante du Cameroun en Angola et le carton du Maroc face au Congo-Brazzaville. Résumé signé Sofiane Amazian.
Les Lions de l'Atlas en ont fait voir de toutes les couleurs au Congo-Brazzaville du côté d'Agadir. Démonstration du Maroc face à des Diables Rouges bien pâles, victoire 6-0. À noter le triplé de l'attaquant Ayoub El Kaabi, vainqueur de la Ligue Europa conférence avec le club grec de l'Olympiakos. Le Maroc, solide leader du groupe E, 3 longueurs devant la Tanzanie, vainqueur 1-0 de la Zambie. Mauvaise opération en revanche pour les Camerounais, leader du groupe D contre l'Angola, 1-1. Pas de deuxième victoire en deux matchs donc pour le nouveau sélectionneur des Lions indomptables, le Belge Marc Brice. Côté déception du jour, ce nul de la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre face au Kenya, 0-0. Les éléphants, qui n'ont pas encaissé le moindre but dans ces éliminatoires, sont tout de même premiers de leur groupe avec 10 points, 0-0. Également entre Madagascar et le Mali, les aigles n'ont jamais décollé, incapables de marquer malgré leur supériorité numérique. Le Mali est quatrième du groupe I, 2 points derrière son adversaire du jour et 4 derrière les Comores, leaders, les Sélacantes, ont battu le Tchad 2-0. La bonne surprise de cette fenêtre internationale, le Soudan qui continue de briller, succès la semaine dernière contre la Mauritanie 2-0, succès ce mardi face au Soudan du Sud 3-0, le Soudan est toujours leader devant une sélection majeure du continent, le Sénégal.
Et parmi les autres résultats du jour, l'Afrique du Sud a battu le Zimbabwe 3-1, le Cap-Vert s'est imposé contre la Libye 1-0, défaite des Seychelles face au Burundi 3-1, enfin victoire étriquée du Gabon. Bon, face à la Gambie sur le score de 3-2.
Et puis les Socceroos ont battu la Palestine 5-0 à Perth mardi soir pour terminer leur première phase de qualification pour la Coupe du Monde. L'entraîneur des Socceroos, Graham Arnold, a fixé à son équipe l'objectif de dominer le prochain tour des qualifications pour la Coupe du Monde. Seuls les deux meilleures équipes de chaque groupe de 6 lors de la prochaine phase obtiendront une qualification automatique pour la Coupe du Monde de 2026. Un mot de tennis pour vous dire que les Espagnols Carlos Alcaraz et Rafael Nadal joueront bien en double au JO de Paris. David Ferrer, le sélectionneur de l'Espagne pour les Jeux, l'a confirmé hier. Alcaraz et Nadal joueront également en individuel. Pablo Carreño Busta, Alejandro Davidovich Fokina joueront en simple et Marcel Granollers, numéro 1 mondial en double, complète la sélection espagnole. Voilà pour le journal des sports de ce jeudi.
On fait une courte pause, puis on se retrouve avec le journal de l'économie avec Nicolas Perpich.
SBS World News vous apporte les actualités mondiales et nationales. Écoutez les dernières nouvelles à la radio, du lundi au vendredi, à 18h. Et regardez notre journal télévisé sur SBS, tous les jours à 18h30. Pour plus d'informations, sbs.com.au/news.
On retrouve Nicolas Perpich pour l'analyse de l'économie australienne. Bonjour à vous, Nicolas.
Oui, bonjour, Jean-Noël.
Et on parle d'une crise des œufs en Australie, cette grippe aviaire qui a frappé cette industrie.
Oui, tout à fait. C'est assez fou, mais là, Coles vient d'annoncer que il y a une limite maintenant. On peut acheter juste deux cartons des œufs. Ah, donc, ça fait 24 en tout. C'est pas beaucoup, mais voilà, c'est la limite parce que maintenant, voilà, il y a la grippe, comme tu dis, la grippe aviaire qui vient de frapper. À peu près 500 000 poulets ont été tués à cause de ça. C'est un peu partout dans le pays, mais ça se centre vraiment au Victoria. Bon, l'Australie occidentale n'est pas touchée. Il y a un grand désert entre cet État et le reste du pays. Mais c'est très grave. Ça a été détecté dans une cinquième ferme maintenant au Victoria. Donc c'est pour ça qu'ils vont devoir malheureusement tuer tous ces poulets. Et Et donc Holmes a dit que cette limite, c'est temporaire, mais ils n'ont pas dit combien de temps ça va durer non plus. Ils travaillent avec les fermiers et les autres pour assurer que les gens ne sont pas rendus malades. En même temps, Woolworths n'a pas placé de limite.
Et Aldi aussi. Pour l'instant, non, ils sont comme Woolworths, il n'y a pas de limite.
Ah, donc c'est que Coles pour le moment. Donc, mais bon, en même temps, le secteur, l'industrie essaie de rassurer les gens. Ils disent que il y a des œufs en grande quantité quand même, et ça devrait aller. Il n'y a pas de risque qu'on va en manquer. Et si on dit ça, c'est vraiment pas le bon message. Donc ils essaient vraiment de calmer les choses. Parce que ça inquiète les gens quand on voit que Coles place des limites comme ça. Ça devrait pas durer trop longtemps, mais c'est quand même, on n'a pas l'habitude de ça en Australie, d'avoir des limites sur les produits, et en particulier les produits agricoles ici. C'est quelque chose qu'on en a tellement, donc c'est assez nouveau pour nous.
Et à signaler aussi qu'en Australie occidentale, il n'y a pas de limite pour acheter les œufs.
Voilà, c'est ça. Donc, c'est pas la même chose parce que bon, ils pensent peut-être que cette grippe n'a pas pu traverser le désert, et donc il y a pas de problème de sécurité ici. Mais bon, ça peut venir quand même assez facilement. Il y a tellement de voitures, il y a des camions, il y a des trains sans arrêt. Donc, je suis sûr qu'ils vont faire très 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 attention.
Et on va parler des autorités australiennes qui sont en train de cibler un nouveau marché noir du tabac.
Ouais, voilà, c'est un produit qui s'appelle en anglais des nicotine pouches. Donc c'est des tout petits sachets, et dedans il y a des produits, il y a d'habitude de la nicotine synthétique, et on met ça dans la bouche, juste derrière la joue, et la nicotine sort, et donc c'est une façon de d'avoir ça sans fumer et sans les vapes. Et c'est illégal ici en Australie. Ça n'a pas eu l'accord de la Therapeutic Goods Administration, mais c'est ici, on est en quantité énorme. Et là, juste depuis début du mois de janvier, les douanes ici en Australie ont confisqué, ils ont pris 1,3 million de ces sachets, ce qui est énorme parce que dans les deux ans précédents, ils avaient saisi seulement 137 000. Donc c'est tellement plus, et c'est exactement en même temps. On voit cette hausse incroyable en même temps que le gouvernement ici avait interdit les vapes qu'on utilise une seule fois. Donc ce qu'ils disent, c'est qu'ils essayent puisque c'est plus difficile de vendre les vapes, ils essayent de remplacer avec quelque chose d'autre. Mais même que ça vient dans des petits paquets avec plein de couleurs et des odeurs à fruits, etc. C'est en fait la même chose. Il y a de la nicotine dedans, donc il y a des problèmes très graves pour la santé, bien sûr. Et ils disent qu'ils visent les jeunes gens et que cette nicotine peut avoir un effet grave sur le développement de la cervelle des jeunes gens. Donc c'est très inquiétant, mais on peut les trouver un peu partout. On va dans des magasins dans les grandes villes, et c'est très facile de les acheter. On demande et ils les passent au comptoir, là, ça coûte pas très cher. Donc c'est une bataille assez difficile, c'est une lutte assez compliquée pour ce marché noir avec des millions de dollars. Ils pensent aussi, la Border Force, les douanes, que souvent c'est des groupes criminels qui envoient ça. Ils les envoient d'autres pays comme la Suède ou la Chine, les États-Unis ou ailleurs. Donc c'est assez grave. Il y a beaucoup d'argent. C'est un grand marché, mais un marché noir. Voilà, c'est la dernière frontière, si on veut, dans la lutte pour essayer d'empêcher une nouvelle génération de jeunes gens de devenir accrochés à la nicotine.
Eh bien, merci à vous, Nicolas, pour cette analyse, et à très bientôt sur SBS en français.
Merci beaucoup, à bientôt.
SBS World News vous apporte les actualités mondiales et nationales. Écoutez les dernières nouvelles à la radio du lundi au vendredi à 18h et regardez notre journal télévisé sur SBS tous les jours à 18h30. Pour plus d'informations, sbs.com.au/news.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Vous êtes toujours sur SBS Radio, vous écoutez le programme en français, il est 13h34. Tout de suite, on vous propose de revenir sur l'actualité des derniers jours en France et notamment sur l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron. Un pari risqué qu'avait tenté Jacques Chirac en 1997 et qui s'était soldé par un échec de la droite alors au pouvoir.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Vous êtes bien sur SBS French, on vous propose aujourd'hui de revenir sur l'actualité politique en France. Après les élections européennes qui ont vu l'extrême droite arriver largement en tête dimanche dernier, le président de la République, Emmanuel Macron, a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Face à la montée de l'extrême droite, le chef de l'État a décidé de redonner aux Français le choix de l'avenir parlementaire en convoquant de nouvelles élections législatives. La dissolution de l'Assemblée nationale par le président de la République, permise par l'article 12 de la Constitution, c'est un phénomène assez rare dans l'histoire de la Ve République. C'est seulement la sixième fois qu'un président utilise la voie de la dissolution. Charles de Gaulle l'avait fait en 1962 et en 1968. François Mitterrand deux fois également en 1981 et 1988. Puis le dernier, Jacques Chirac, l'avait fait en 1997. Une dissolution qui s'était soldée par un échec de la droite aux élections législatives et qui avait mené à une cohabitation de 5 ans entre Jacques Chirac et Lionel Jospin, leader de la gauche plurielle. On vous propose aujourd'hui de revenir sur cette dissolution ratée de 1997. Et pour en parler, je reçois aujourd'hui Raphaël Baquet, grand reporter au journal Le Monde et autrice de nombreux ouvrages sur la politique française, notamment sur les années Chirac avec les ouvrages Chirac président, Les coulisses d'une victoire, Seul comme Chirac ou encore Chirac ou le démon du pouvoir. Bonjour Raphaël et bienvenue sur SBS French.
Bonjour.
Alors Raphaël, en 1997, vous êtes déjà journaliste au journal Le Parisien. Vous couvrez l'actualité de l'Élysée. Jacques Chirac est alors élu depuis 2 ans seulement. Les élections législatives ne sont prévues que l'année suivante, en 1998. Mais la popularité du Premier ministre de l'époque, Alain Juppé, est en chute libre. Dans quel contexte survient l'annonce de la dissolution par le président ?
En fait, Jacques Chirac fait une première erreur 2 ans plus tôt. Il est élu en 1995 et là, il devrait se dissoudre. Et il ne le fait pas. En fait, il a une majorité à l'Assemblée qui est bien de droite, mais c'est une droite qu'il a désavouée, qui a plutôt choisi Édouard Balladur et qui finalement s'est rallié à lui seulement à la présidentielle. Or, il aurait dû dissoudre à ce moment-là, il ne le fait pas. Et 2 ans plus tard, alors qu'il a une situation économique très difficile et que son Premier ministre est très impopulaire, là, il choisit de dissoudre. C'est une dissolution à contre-temps. Politiquement, vraiment, c'est une erreur. Elle est décidée exactement d'ailleurs de la même façon que Emmanuel Macron décide aujourd'hui la dissolution, c'est-à-dire que c'est une dissolution décidée dans le secret d'un tout petit comité à l'Élysée. C'est un peu des conseillers qui font de la politique en chambre, si vous voulez, sans regarder vraiment l'état électoral du pays. Et à l'époque, effectivement, Jacques Chirac croit pouvoir surmonter la difficulté dans laquelle il se trouve, c'est-à-dire la difficulté à faire passer ses réformes économiques, à changer de pied et à pouvoir maintenir un Premier ministre très impopulaire. Il croit pouvoir passer par-dessus tout ça en se retrempant dans l'élection. Et évidemment, ce qui devait arriver arrive, c'est-à-dire que c'est l'opposition qui gagne, c'est la gauche.
Alors au niveau du contexte politique global en France en 1997, vous parliez de l'impopularité du Premier ministre de l'époque, Alain Juppé. Qu'est-ce qui a provoqué dans les mois précédents cette dissolution de l'Assemblée nationale, cette impopularité du Premier ministre ?
Oh, c'est un classique du genre, c'est-à-dire que Jacques Chirac est élu en 1995 en faisant 1000 promesses et des promesses essentiellement sociales. D'ailleurs, son thème de campagne, c'est de résoudre la fracture sociale. Donc, il promet que justement, il augmentera les salaires, qu'il maintiendra l'âge de la retraite tel qu'il est, c'est-à-dire un âge de la retraite fixé par les socialistes avant, hein, par François Mitterrand. Il il promet monts et merveilles, et puis évidemment, il est confronté à la situation économique du pays, au déficit des comptes sociaux, et il fait un virage à 180 degrés avec Alain Juppé, et il décide le contraire, c'est-à-dire de réformer les retraites et de reporter l'âge de la retraite, d'augmenter les cotisations sociales et de bloquer les salaires. Donc évidemment, son Premier ministre devient très impopulaire.
Alors on parlait justement de cette volonté de réformer les retraites déjà à l'époque. Cette volonté, elle mène à d'importants mouvements sociaux, notamment à des grèves importantes dans le pays.
Il y a les plus grosses grèves que le pays ait jamais connues à cette époque. Effectivement, pendant plusieurs mois, et notamment à l'automne et à l'hiver 96 et 97, il y a d'énormes grèves et vraiment le pays est à l'automne 95 le pays est complètement bloqué, tout le monde est dans la rue, les transports ne marchent plus, c'était tout à fait frappant, je m'en souviens très bien. Et donc effectivement, il est confronté à un refus catégorique du pays de toutes ces réformes. C'est une situation grave pour un président de la République.
Alors à quoi Jacques Chirac s'attend lorsqu'il décide d'emprunter cette voie de la dissolution de l'Assemblée nationale et lorsqu'il décide de convoquer de nouvelles élections législatives en 1997?
Il est important de reconstituer le petit groupe qui l'entoure à ce moment-là. Et l'un des artisans de la dissolution est Dominique de Villepin, qui est à l'époque le secrétaire général de l'Élysée, qui est une espèce de gaulliste flamboyant et très théorique, il faut bien le dire. À l'époque, il est secrétaire général de l'Élysée et il théorise beaucoup la politique sans la vivre. Il n'a jamais été élu. Il a une vision toute gaullienne d'ailleurs, qui est que face aux difficultés, De Gaulle retrempait toujours son pouvoir en faisant des référendums. Donc, il imagine que Jacques Chirac doit faire de même. Mais plutôt qu'un référendum, c'est là qu'il imagine cette dissolution. L'idée, c'est de retremper la légitimité du pouvoir dans l'élection. Alors théoriquement, c'est tout à fait louable, évidemment. Le problème, c'est que quand vous avez changé de pied et fait le contraire de ce que vous aviez promis, vous ne pouvez pas gagner l'élection. Et c'est exactement ce qui se passe pour Jacques Chirac. Donc il croit pouvoir se redonner une légitimité en redemandant au peuple ses suffrages. Mais en redemandant au peuple ses suffrages, et ben le peuple lui répond, ben justement, on ne veut pas de toi.
Alors à l'époque, est-ce qu'on peut dire que cette dissolution, qui vous l'avez dit, est décidée par un petit comité? Est-ce que c'est une surprise, notamment pour les médias? Ou est-ce qu'il y a, dans les semaines précédentes, des rumeurs ou des bruits de couloir qui laissent supposer une dissolution prochaine de l'Assemblée? Ou est-ce que c'est vraiment finalement une surprise un peu pour tout le monde?
Ah oui, je vais même vous raconter une anecdote tout à fait personnelle. À l'époque, j'ai donc 33 ans, donc je suis pas très aguerrie. Or, Dominique de Villepin teste sur quelques journalistes, sur le journaliste de Libération qui a 25 ans de plus que moi, qui est un homme très très bien, Gilles Bresson, sur une jeune journaliste du Figaro qui a mon âge, et sur moi au Parisien. Il teste l'idée de la dissolution. Et je trouve ça tellement irrationnel, tellement fou, que je fais un papier, mais c'est un papier sans en faire le gros titre. J'aurais dû faire la une, évidemment, du journal. Et c'est mon confrère de Libération, qui est plus aguerri que moi, qui comprend que s'ils testent ça, c'est qu'ils vont le faire. Donc, j'ai fait un ratage journalistique par excès de rationalité. Vous voyez, donc, je trouvais ça tellement absurde que je n'y ai pas cru. Et d'ailleurs, ça a été une surprise pour tout le monde. Et tout de suite, à partir du moment où la dissolution a été décidée, on a compris que la droite n'allait pas gagner.
Vous écoutez Le Français sur Radio SPS.
Tout de suite, la deuxième partie de l'interview de la journaliste du Monde, Raphaël Baquet, sur la dissolution ratée de l'Assemblée nationale par Jacques Chirac en 1997.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Alors les législatives, elles sont organisées les 25 mai et le 1er juin 1997 et elles voient la victoire d'une coalition de gauche, la gauche plurielle, qui obtient la majorité à l'Assemblée nationale. Jacques Chirac nomme alors comme Premier ministre Lionel Jospin, le premier secrétaire du Parti Socialiste. C'est le début d'une cohabitation de 5 ans, mais pour Jacques Chirac et la majorité, on peut parler véritablement d'un échec cuisant.
Ah oui, c'est certain. Et en même temps, pour lui, ça n'a pas été une mauvaise période. C'est-à-dire que d'abord, il n'était plus aux manettes, donc c'est toujours beaucoup plus confortable, évidemment. C'est la gauche qui a dû assumer toutes les réformes difficiles. Et puis, il s'est refait une forme d'image sympathique qui lui a permis d'ailleurs de se représenter hein, une deuxième fois en 2002. Mais c'est vrai que la cohabitation, c'est l'exercice du pouvoir du président bridé. Donc, il n'avait plus quasiment aucun pouvoir, sauf le pouvoir de représenter la nation à l'étranger. Ce qui est déjà pas mal, mais avec toujours flanqué du ministre des Affaires étrangères, qui était celui de Lionel Jospin.
L'idée d'une nouvelle cohabitation en 2024, vous y croyez d'ici un mois ?
Ah bah oui, bien sûr. D'abord, là, on a plusieurs hypothèses qui se dessinent. Soit le RN gagne l'élection et a une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Donc, évidemment, les institutions obligent le président à nommer un premier ministre issu de cette majorité. Donc, le premier ministre vient du RN, il a une majorité absolue à l'Assemblée nationale, il fait passer ses réformes. Soit, deuxième hypothèse, qui est l'hypothèse, à vrai dire, quand on regarde la carte électorale, qui est aujourd'hui, mais tout peut changer, qui est aujourd'hui la plus probable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de majorité absolue, il y a une majorité relative. Alors là, ça laisse une forme de choix possible. Enfin, il est obligé de choisir quand même un premier ministre qui convienne à cette majorité relative. Donc, soit un rallié de l'UMP qui est rallié au Rassemblement national, soit un semi-Rassemblement national. Enfin, ça va être compliqué. Ça va être des négociations très difficiles. Et là, ça va être très difficile de toute façon, quoi qu'il en soit, pour le nouvel gouvernement, parce qu'il n'y aura pas une majorité absolue pour faire passer les réformes. Et là, ce sera très compliqué, ce sera un coup de 49-3. Et comme il n'y a plus de menace de dissolution, parce que quand on dissout, on ne peut plus redissoudre pendant un an, ça veut dire que très probablement le pays sera bloqué, en tout cas en termes de réformes. Donc voilà ce qui peut se profiler. Soit, alors évidemment, hypothèse là moins probable, tout d'un coup, Renaissance peut de nouveau avoir une majorité ou la gauche a une majorité. J'avoue que j'y crois beaucoup moins.
En comparaison avec la dissolution de 1997, est-ce que celle-ci, annoncée par le président Emmanuel Macron dimanche dernier, est-ce qu'elle vous surprend davantage ou moins que celle de 1997 ?
Ah bah elle est exactement comme celle de 1997. Elle est faite par un petit groupe de conseillers. Elle est décidée par un petit groupe de conseillers à contretemps avec un président impopulaire. Donc elle lui ressemble beaucoup. Ce qui change, c'est le paysage politique. C'est-à-dire qu'en 1997, il y avait le Front National était déjà très haut, hein, mais il y avait deux grandes forces. Il y avait la droite, le RPR, UDF, enfin l'UMP à l'époque. Et puis la gauche, la coalition de gauche, et d'ailleurs la coalition de gauche l'a emporté sans difficulté. Aujourd'hui, le paysage politique est beaucoup plus fragmenté. Donc c'est pas tout à fait la même chose. La droite UMP s'est effondrée, la gauche est divisée. Enfin là, ils essaient de se réallier pour les élections, mais leurs électeurs sont divisés. Et Renaissance, le parti du président, est impopulaire. Donc et vous avez un Rassemblement national qui a le vent en poupe, mais dont le système électoral des législatives n'est pas le bon système pour lui. Donc c'est très compliqué. On a un paysage beaucoup plus fragmenté. Mais les conditions de la dissolution ressemblent beaucoup à celles de 1997. Oui.
En termes de risque d'échec, Emmanuel Macron ne disposait que d'une majorité relative à l'Assemblée lorsqu'il a annoncé la dissolution. Diriez-vous que les risques d'échec sont encore plus importants pour lui aujourd'hui qu'ils ne l'étaient pour Jacques Chirac en 1997 ?
Bah, c'est-à-dire que Jacques Chirac, il avait un seul risque, la cohabitation avec la gauche, en fait. Tandis que là, Emmanuel Macron, il a plusieurs risques. La cohabitation avec l'extrême droite, une forme de cohabitation avec une majorité étiolée, c'est ça qui est compliqué, et c'est surtout pour le pays que c'est un risque, parce que c'est ça qui est difficile. Pour Jacques Chirac, si vous voulez, il y avait, quoi qu'il arrive, il y avait une possibilité, soit il l'emportait, et bon, bah, il avait son équipe toute prête, soit la gauche était déjà prête, et d'ailleurs, elle a montré qu'elle était prête à ce moment-là. Donc, si vous voulez, c'était beaucoup moins risqué pour le pays. Après, qu'on soit de droite ou de gauche, on pouvait être mécontent du résultat, bien sûr. Mais c'était pas tout à fait la même chose. Tandis que là, on a une situation incroyablement mouvante et fragile. Et donc, vu la situation du pays, c'est-à-dire avec un endettement très important, des difficultés sociales très grandes, une guerre en Europe, hein, Là, ça peut changer beaucoup de choses, car évidemment, notamment sur la politique étrangère, par exemple, ça peut changer du tout au tout. Si le Rassemblement national est au pouvoir, c'est pas du tout la même chose, c'est un parti pro-russe. Donc c'est pas du tout la même chose que si c'est Renaissance, ou si c'est la gauche ou la droite, vous voyez ?
Alors finalement, en tant qu'observatrice aguerrie de la vie politique française, comment est-ce que vous analysez la décision d'Emmanuel Macron ? On a vu dans les médias ces derniers jours que cette décision de dissoudre l'Assemblée nationale a été qualifiée de suicide politique, de jeu dangereux ou encore de seule solution possible. Comment vous estimez ou est-ce que vous comment est-ce que vous analysez cette décision ?
Bah, à vrai dire, il nous a montré ces dernières années une forme de caractère. Donc et aussi de mode de fonctionnement du pouvoir. Il exerce le pouvoir très seul. C'est un pouvoir solitaire. Il a très peu de conseillers politiques qui sont des politiques aguerris. Je veux dire, il n'a même pas prévenu son premier ministre qu'il allait décider la dissolution. Il l'a prévenu une heure avant. Donc, il a un exercice du pouvoir extrêmement solitaire, avec juste un tout petit groupe de conseillers dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui ne sont pas des élus. Donc ça, c'est très important. Donc il y a un exercice du pouvoir solitaire, il y a une forme de goût pour le coup de poker, le risque, le jouer son va-tout, il le fait tout le temps, à vrai dire. Donc il aime ça, mais évidemment, ça marche plus ou moins bien. Donc ça lui ressemble, et en même temps, c'est incroyablement risqué. Et surtout, c'est contraire à tout ce qu'il a... Il a professé, puisqu'il avait dit « je serai le président qui aura fait reculer l'extrême droite » et il est au contraire celui qui peut avoir mis l'extrême droite au pouvoir.
Et pour rappel, on aura les résultats de ces élections législatives le 7 juillet prochain. Le premier tour, ce sera le dimanche 30 juin. On vous tiendra informé, bien évidemment, sur SBS French. Merci Raphaël d'avoir été avec nous pour revenir sur cette dissolution ratée de 1997 et analyser également la dissolution annoncée de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron dimanche dernier. Et à bientôt peut-être sur SBS French.
À bientôt. Au revoir.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
Il est 13h57 sur SBS French. C'est l'heure du rappel des titres de ce jeudi 13 juin. Le président français Emmanuel Macron a défendu mercredi son choix de dissoudre l'Assemblée nationale et de convoquer de nouvelles élections législatives. Lors d'une conférence de presse, il a appelé à un large rassemblement autour de la majorité pour contrer les extrêmes. L'espoir d'un cessez-le-feu à Gaza reste fragile ce jeudi. Les États-Unis estiment que certaines revendications du Hamas suite à la proposition de cessez-le-feu de Washington acceptée par Israël ne sont pas réalisables. Et puis en Australie, le gouvernement fédéral continue de serrer la vis en matière d'immigration. De nouvelles mesures doivent entrer en vigueur le 1er juillet prochain pour empêcher les personnes déjà présentes sur son sol en visa touriste d'effectuer un visa étudiant pour rester en Australie. C'est la fin de cette émission, merci à toutes et à tous de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet sbs.com.au et sur toutes les plateformes de podcast. J'ai été très heureux de passer cette heure en votre compagnie, votre prochain rendez-vous avec le programme en français. En direct, ce sera ce samedi, même fréquence, même heure. D'ici là, je vous souhaite de passer un excellent jeudi après-midi sur les ondes d'SBS Radio. On se quitte en musique sur ce titre d'Ensa Marie-Lou de l'Impératrice.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.